voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Éduquer, c'est transmettre à la génération future un corpus de connaissances, de valeurs et de compétences faisant partie d'une culture commune. Les méthodes d'enseignement et d'éducation sont aujourd'hui largement remises en question. Donc la saison 3 de l'émission Kaizen parle de l'éducation. Donc pour cette émission, j'ai pu rencontrer des parents d'élèves, des professeurs, Steiner, Montessori, on a rencontré des réalisateurs, des écrivains. Là je suis à la ferme des enfants. En Ardèche avec Sophie Rabhi, donc je vais peut-être tout simplement commencer par donner la parole pour que tu me présentes un peu ton itinéraire et me dire comment est-ce que tu en es arrivée à t'intéresser à l'éducation.
Oui, bonjour. Alors comment je suis arrivée à m'intéresser à l'éducation ? Eh bien, j'étais pas forcément destinée à cela au départ, en tout cas ce sont pas les études que j'avais choisies. Et ce qui m'a emmenée là, ça a été deux choses. Ça a été une réflexion sur... plein de thématiques qui m'avaient été apportées dans mon enfance, comme l'écologie, l'humanisme, le destin de l'humanité, pourquoi est-ce que les humains se comportent ainsi sur la planète, etc. Toute cette réflexion, la philosophie aussi, toute cette réflexion de fond qui m'a beaucoup habitée quand j'étais une petite fille et une adolescente, parce que mon père nous parlait beaucoup de ça. Et une expérience, alors double elle aussi, c'était avec les enfants. Ça a été l'expérience d'accueil paysan avec ma mère, qui était chevrière et qui a choisi d'ouvrir sa ferme aux enfants. Donc moi, je l'ai aidée à partir du moment où j'ai eu 18 ans. J'ai été animatrice à la ferme. Et l'expérience déterminante, ça a été de devenir moi-même maman. Et quand je suis devenue maman et que j'ai mis en lien toute ma réflexion sur l'humain et en même temps mon expérience avec les enfants, j'ai compris que la meilleure façon de contribuer au changement de société, c'était de s'intéresser aux enfants, puisque ce que l'on va apporter aux enfants, la manière dont on va nourrir leurs besoins ou pas, va déterminer les comportements de l'adulte que chacun devient. Voilà. Donc pour moi, ça a été vraiment très très important de comprendre cela et de pouvoir contribuer.
Mais donc quand tu t'es intéressée au système d'éducation nationale, l'éducation classique, tu as fait le choix dès le départ de ne pas y mettre tes enfants ? Tu as voulu créer une école dès le départ ?
Oui, à partir du moment où j'étais enceinte, je me suis intéressée aux besoins de l'enfant et j'ai commencé aussi un travail sur moi qui m'a reconnectée avec mon enfant intérieur. Donc je l'ai interrogé, cet enfant intérieur, je me suis intéressée vraiment à ce qu'il a pu ressentir pendant toutes ces périodes de vie différentes. Et je me suis rendu compte que répondre vraiment aux besoins, déjà c'est un grand défi qui ne va pas de soi parce que la manière d'accompagner les enfants de la manière conventionnelle, je me suis rendu compte qu'elle malmenait pas mal de besoins chez l'enfant. Et donc ça a commencé par comprendre les conditions de la naissance. Donc j'ai lu des livres comme celui de Frédéric Le Boyer pour une naissance sans violence. Et je me suis rendu compte que oui, même la naissance était un enjeu par rapport aux besoins de l'enfant, du bébé qui arrive au monde. Est-ce que vraiment quand on l'accueille d'une manière assez brutale, avec des lumières très vives, beaucoup de bruit, une maman qui a les pieds en l'air dans les étriers parce que pour le confort du médecin qui l'ausculte, etc. Est-ce que ça répond vraiment aux besoins de l'enfant ? Eh bien non, en fait, Frédéric Le Boyer l'explique très très bien. Donc j'ai accouché à la maison, j'ai 4 enfants qui sont nés à la maison, dans des conditions que je souhaitais vraiment, avec beaucoup de douceur et prendre le temps vraiment de l'accueil dans la sérénité. Et puis après, ça a été la question de l'alimentation. Est-ce que l'enfant a besoin de téter un biberon ou est-ce que l'allaitement naturel répond complètement aux besoins ? Et puis, je me suis intéressée au portage parce que j'ai une expérience aussi africaine, comme mon papa a travaillé beaucoup en Afrique. J'ai observé que les bébés là-bas étaient tout le temps portés et qu'ils étaient spécialement sécures, assez calmes. Et ça m'a beaucoup interrogée. Donc, j'ai décidé de rejoindre toutes les associations qui font la promotion du portage du bébé et vraiment ça m'a énormément parlé. La pratique du cododo, donc le fait de dormir avec son enfant, a pour moi aussi nourri un besoin à la fois chez moi et chez l'enfant. Et pareil, a contribué à faire grandir un sentiment de sécurité chez lui. Et puis, tout ce qui est de l'ordre de l'accompagnement émotionnel. Et là, c'était un gros dossier que j'ai ouvert parce que je me suis rendu compte que très souvent, l'éducation vient faire taire des émotions, vient éduquer, soi-disant, les comportements de l'enfant, alors que très souvent, tout le temps, l'enfant a à être accueilli inconditionnellement dans ce qu'il vit, dans ce qu'il manifeste, même si ce qu'il manifeste nous dérange. Peut-être il va... ça n'a rien d'anormal qu'un enfant, un bébé ou un petit fasse des crises de rage, soit très très en colère ou très triste, désespéré même, entre dans des pleurs qui vont nous dépasser, voire nous déborder. Et moi, je ne savais pas accompagner cela, donc il a fallu que j'apprenne tout cet accompagnement-là. Et dans cette logique-là, de répondre et de nourrir les besoins de l'enfant, forcément, la question de la scolarisation s'est posée. Puisque nous sommes dans un pays où la scolarisation n'est pas obligatoire, mais l'instruction est obligatoire à partir de 6 ans. Et j'ai bien vu que l'école n'allait pas avoir ce même souci que j'ai eu depuis l'origine de nourrir les besoins, mais plus d'adapter l'enfant à la société et aux attentes des adultes qui l'entourent. Donc ça ne me convenait pas de rentrer dans ce système-là. Et j'ai eu donc l'initiative de créer moi-même un environnement, un cadre, une structure qui allait pouvoir s'occuper de nourrir les besoins de l'enfant tout en accueillant à la fois mes enfants et puis les enfants d'autres familles.
Beau programme, mais comment tu fais ? Tu as quel âge à cette époque-là et quels sont les premiers outils que tu mets en place pour pouvoir accueillir et créer ce lieu, cette école ? Il y a un chantier énorme alors à mettre en place à ce moment-là quand tu as envie de créer toi-même ton propre système éducatif.
Oui, absolument, surtout que, encore une fois, ce n'était pas mon projet professionnel, je ne suis pas enseignante à la base, donc j'ai découvert et appris en chemin faisant. Et j'ai décidé de me former à la pédagogie Montessori parce que c'était celle qui me paraissait le plus adaptée à mon projet de suivre les besoins de l'enfant. Et j'ai transformé un petit peu la ferme de mes parents, puisque à l'époque, j'avais décidé de reprendre l'accueil familial à la ferme, donc de garder la ferme aussi, l'élevage de chèvres, etc. Donc il y avait beaucoup d'aspects dans ce projet-là. Et le centre d'accueil pour enfants a été transformé en école. Donc nous avons fait des travaux, rajouté du mobilier, du matériel pédagogique pour pouvoir ouvrir l'école en 99. Donc à l'époque, moi j'avais 26 ans et je me suis consacrée pleinement à ce projet d'accueillir des enfants à la ferme pour leur scolarité.
Je voulais que tu me parles un peu de la pédagogie Montessori, Marianne Montessori, tu le cites, hein, donc tu t'es inspirée de cette pédagogie-là.
Pour moi, ce qui m'a énormément parlé chez Montessori, ça a été, elle disait, on ne va pas agir sur l'enfant, on va agir sur son environnement. Et elle disait aussi que l'enfant a un guide intérieur qu'il convient de suivre pour son propre développement. Donc elle a un petit peu mis... de côté, la notion de maître-élève, de dominant-dominé, de sachant-apprenant, donc au profit d'une logique d'apprentissage intérieure à chaque enfant qu'il doit suivre dans l'ordre et en suivant le rythme qui lui convient vraiment. Donc on ne va pas trouver le même rythme chez tous les enfants, ni le même centre d'intérêt. Et pour nourrir cela, Maria Montessori propose d'organiser l'environnement, donc de prévoir une richesse de propositions, de possibilités autour de l'enfant qu'il va utiliser à sa guise. Donc c'est lui qui choisit ses activités en autonomie, de manière individualisée. Donc il y a très très peu chez Montessori cette notion de groupe. C'est vraiment la maison des enfants, donc comme dans une maison, les enfants circulent librement et vont chercher ce qu'ils ont envie de faire. Ils s'installent sur une table ou sur un tapis, ils pratiquent, ils rapportent leur matériel dans l'étagère quand ils ont terminé. Donc c'est ça qui m'a plu, c'est cette confiance que Maria Montessori a donnée à l'enfant.
Mais donc là, c'est l'enfant qui vit l'expérience par lui-même. L'enseignant, on n'a plus rien à lui enseigner. C'est l'enfant qui apprend tout par lui-même.
Exactement. Et ça, c'est un peu dur pour l'ego de l'enseignant. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette posture où on devient un accompagnant pour l'enfant, quelqu'un même qui va être un petit peu en arrière-plan, parce qu'une éducatrice Montessori, elle est formée à la discrétion, elle est formée à la retenue, elle est formée à l'écoute et à l'observation de l'enfant pour pouvoir répondre au mieux aux aspirations présentes de l'enfant quand il en a besoin. Mais la plupart du temps, elle l'observe juste et elle le regarde fonctionner en autonomie.
Il y a cette notion aussi, quelqu'un me disait, les jouets par exemple, on ne va pas avoir deux tours roses mais juste une pour apprendre à l'enfant à partager et pas être dans cette compétitivité, mais vraiment être complémentaire, apprendre à faire ensemble, à vivre ensemble.
Exactement. Dans les maisons, en général, il n'y a pas quatre pianos, il n'y a pas cinq éviers, il n'y a pas... on a rarement 12 balais. Voilà, dans une maison, on a un exemplaire de chaque chose, ou parfois plusieurs exemplaires quand ça le nécessite, mais tout a une fonction, une utilité assez spécifique qui invite les personnes, au moment où c'est leur moment hein, de faire cette activité, de fonctionner avec ça. Et si un autre enfant veut faire la même activité, ben il est invité à attendre que le matériel retourne à sa place. Ce qui fait que, alors ça a plusieurs vertus, donc c'est vraiment, ça apprend la patience, ça apprend l'acceptation, ça apprend l'observation, et puis aussi la non-compétition, parce qu'il n'est pas question de voir qui va monter la tour rose le plus vite ou qui va réussir à faire des empilements, des emboîtements le mieux. On ne se compare pas et simplement on accepte que l'autre est en train de vivre sa propre expérience et qu'on accepte de ne pas interférer là-dedans d'aucune manière.
Mais toi, Montessori a donc été une source d'inspiration, mais ici, aller à la ferme des enfants, c'est pas une école Montessori, tu as après mis ta goutte d'eau.
Alors ça n'a jamais été une école Montessori qui répondait vraiment aux critères académiques de cette pédagogie-là, parce que déjà, avant, c'était une école à la ferme, avec un environnement enrichi, puisqu'il y avait donc cette ferme en activité, l'environnement, la nature, etc. Puis, assez vite, un éco-village, donc aussi un environnement social qui a pesé beaucoup dans le développement de la pédagogie à la ferme des enfants. Et de plus, mon fil rouge, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a toujours été de nourrir les besoins. Et en faisant de la recherche là-dessus, hein, sur ce thème de nourrir les besoins de l'enfant, eh bien, ça m'a emmenée encore beaucoup au-delà de la pédagogie Montessori. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ce n'est plus une école Montessori. On ne peut plus du tout répondre à ces critères-là. On répond davantage à ceux d'une école démocratique, donc depuis récemment, parce qu'on s'est rendu compte les années précédentes que l'injonction d'apprendre, qui est sous-entendue chez Montessori, parce que je ne suis même pas sûre que c'était son projet à elle, hein, cette injonction d'apprendre, mais disons que l'application de Montessori dans nos sociétés modernes, ça reste collé à cette injonction d'apprendre, eh bien, elle malmène aussi le besoin de liberté de l'enfant et même, je dirais même, son développement cognitif. Parce qu'on sait maintenant avec les neurosciences, on sait que les meilleures conditions pour apprendre, c'est la liberté. C'est pas quand quelqu'un nous dit « apprends ça » ou quelqu'un essaye de nous faire avaler quelque chose qu'on n'a pas demandé. Les meilleures conditions pour apprendre, c'est vraiment d'avoir de l'enthousiasme, de la curiosité et de l'intérêt pour ce qui est là. Et ce qui est très difficile pour nous les adultes à lâcher, c'est le contrôle de cela, parce que pour que l'enthousiasme s'éveille, il n'y a pas de bouton sur l'enfant, il n'y a pas d'interrupteur. On est obligé d'accepter que c'est lui qui va faire voir naître ça en lui à un moment qui nous échappe et d'une forme qui nous échappe aussi. Peut-être qu'on aimerait bien que notre enfant il s'intéresse au corps humain ou aux langues étrangères et que finalement, lui, ce qui va l'intéresser, c'est la pêche à la ligne ou bien l'élevage de chèvres ou lire des mangas, enfin, je ne sais pas. Donc, pour essayer de dominer un peu cet apprentissage de l'enfant, nous avons mis, même au niveau institutionnel, un programme en place, hein, c'est le socle commun. Et ce programme-là, eh bien, il se trouve qu'il ne passionne pas forcément les enfants. Il y a des choses qui sont évidentes. Bon, le langage, par exemple, ça paraît évident parce que, d'ailleurs, les enfants n'ont pas besoin de professeurs pour apprendre à parler. Tout ce qui est corporel, sportif, etc. La découverte de l'environnement, de la nature. L'enfant le fait assez spontanément et tout ça, c'est dans le socle commun, donc c'est parfait. Mais après, l'acquisition des mathématiques, de la grammaire, d'une langue étrangère, etc., ça n'a pas de sens pour l'enfant, c'est-à-dire qu'il ne le relie pas à quelque chose qui est de l'ordre d'un besoin pour lui ou d'un intérêt ou d'une passion ou d'une nécessité. Il se trouve qu'il peut très bien ne pas s'y pencher, ne pas s'y intéresser, ne pas accrocher avec ces matières-là.
Mais c'est tout le contraire de ce qui se passe dans la plupart des écoles aujourd'hui en France, où on est tous assis sur une chaise, où on doit apprendre la même chose au même moment avec un professeur qui est là pour nous remplir.
Absolument. Alors moi, je me suis rendu compte que c'était une vision assez industrielle finalement de l'accompagnement de l'enfant. Parce qu'on cherche à avoir un standard, un produit standard. C'est-à-dire que on voudrait qu'à un âge donné, c'est 16 ans, la fin de l'instruction obligatoire, la plupart des citoyens de notre pays aient le même niveau d'instruction. Donc tout va être mis en œuvre pour arriver à ce résultat. Finalement, on y arrive assez difficilement, avec beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie consacrée à cela, beaucoup aussi d'arrêt maladie chez les enseignants et de burn-out et de désespoir chez tout le monde d'ailleurs, hein, les enseignants, les élèves. Donc il y a une grande souffrance pour arriver à honorer ce programme qui est cette vision à la chaîne de l'éducation, de l'accompagnement de l'enfant. Et finalement pour un résultat assez peu satisfaisant et des années et des années à lutter contre des énergies naturelles, parce que si l'énergie naturelle de l'enfant c'est de vivre, de déguster la vie et d'aller vers des centres d'intérêt très très variés, sa scolarité le ramène à quelque chose de très normé, d'obligatoire. Il y a cette notion d'être obligé et de contraint. Et finalement, je trouve que c'est improductif par rapport à permettre à des enfants de devenir des adultes épanouis dans cette société.
Mais tu es passée par là aussi, toi, en tant qu'enfant et en tant que jeune adulte et étudiante.
Oui, alors chacun s'adapte comme il peut. Moi, j'ai été plutôt une élève assez sage et assez docile avec ce programme. Et puis j'ai un frère qui a un an et demi de plus que moi, pour qui ça a été vraiment un parcours extrêmement douloureux. Donc chacun s'adapte ou pas à sa manière. Mais ce qui est sûr, c'est que vivre cette scolarité m'a permis de la remettre en question.
Autre chose qui surprend, qui marque quand on arrive ici, c'est cet environnement naturel. On en a un tout petit peu parlé, mais pas suffisamment, je pense. On arrive à la ferme des enfants, on la voit pas à l'école. Elle est noyée au milieu d'arbres, d'animaux. Et c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on ne retrouve quasiment plus dans aucune des écoles dans lesquelles vont nos enfants, notamment dans les villes, où là, on est complètement entouré de murs bétonnés. Quelle est la place de la nature dans l'évolution, j'ose plus dire le mot dans l'enseignement, mais dans la manière dont les enfants vont grandir? Quel est le rôle, la place de cette nature qu'on a tendance à complètement occulter, à oublier?
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que les enfants vivent comme des petits poissons qui ne voient pas qu'ils sont dans l'eau, quoi. Donc la nature, elle est omniprésente. Ils arrivent par la forêt, enfin par un chemin qui traverse le bois de paille-olive. Quand ils sont à l'école, ils sont entourés d'arbres, d'animaux, de plantes, de fleurs, d'insectes. Dans la cour même de l'école, il y a un parc avec des chevreaux, avec des poules, les oies. Donc, ils vivent avec les saisons, ils vivent avec la météo. Donc, il y a des jours où on saute dans les flaques et puis des jours où on joue plutôt avec les cailloux parce que tout est sec. Donc, cette nature-là, elle est vraiment omniprésente et je dirais que les enfants l'absorbent par tous les pores de leur peau. Ils vivent à l'intérieur. Et il n'y a pas un jour qui se passe sans qu'il y ait une expérience plus consciente, du coup, qui se fasse avec la nature, parce que quelqu'un a trouvé un lézard, parce qu'il y a un frelon dans la classe, parce qu'ils ont vu un nid de guêpe, parce qu'il y en a un qui a trouvé un orvet, parce que, tiens, c'est la saison des coccinelles, ou tiens, Maintenant, il y a les mantes religieuses qui ont éclos. Enfin, voilà, on voit. Et tous les jours, ils nous ramènent des questionnements et des observations qui concernent la nature.
C'est vraiment des privilégiés, alors, ceux qui sont ici par rapport à tous les autres enfants dans les autres écoles.
Et si c'était ça la vie normale et que c'est pas un privilège finalement de vivre dans la nature, enfin, ou en tout cas si c'est un privilège, eh ben, quelle est la folie qui a fait qu'on s'en soit privé?
La voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine à retrouver en kiosque tous les 2 mois.